Salut à toi et bienvenue dans la serre. Ici, on apprend à comprendre le fonctionnement de son jardin privé, à prendre soin de son jardin intérieur et à cultiver son jardin public. Dans cet espace, on débroussaille son esprit grâce à la métacognition et la gestion de soi, on s'éduque à l'alimentation afin de nous aider dans notre floraison et on se demande pourquoi on croit ce en quoi on croit afin de s'épanouir dans les meilleures conditions. J'ai à cœur de te servir de guide et à développer ta curiosité de botaniste en herbe en mettant les mains dans la terre, en s'émerveillant de ce qui évolue chez toi chaque jour et en profitant de ce qui est déjà là. En pénétrant dans la serre, sache que l'environnement ne sera pas toujours confortable pour toi, mais les conditions seront optimales afin de mieux te comprendre. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la serre. Aujourd'hui, je me suis fixé comme objectif de vous parler enfin des biais cognitifs et en 15 minutes maximum. Je dis enfin car ça fait trop longtemps que j'ai envie de vous parler de ce sujet et le faire en moins de 15 minutes est un petit challenge en soi car c'est un très 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 vaste sujet. Mon intention pour ces 15 minutes de votre temps est qu'à la fin, vous ayez compris simplement de quoi il en retourne, en quoi ça consiste et comment augmenter vos chances de les repérer, ces biais cognitifs. Je trouve que c'est un sujet important parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne sont même pas au courant de l'existence de ce phénomène de notre cerveau, alors que nous y sommes tous, sans exception, soumis. Mais on en parle de plus en plus, et c'est comme tout, il y a de l'information et de la désinformation. On va amener un petit peu de clarté dans tout ça aujourd'hui, même si je n'ai pas du tout la prétention d'être une experte de ce sujet. Par contre, je suis une grande curieuse qui aime particulièrement chercher activement des informations, faire des recherches et aller en profondeur des choses. Et voilà, les biais cognitifs, dès que j'en ai eu connaissance, ça m'a vraiment, j'irais peut-être pas jusqu'à dire passionnée, mais en tout cas vraiment, vraiment intéressée, toujours dans cette optique de meilleure compréhension de moi-même, mais aussi des autres. Donc petit disclaimer très important, être au courant de l'existence des biais cognitifs ne vous empêchera pas pour autant de les éviter, mais peut-être au moins de les repérer plus facilement. Se penser protéger des biais cognitifs parce qu'on en a connaissance, malheureusement, pour certains, ça peut être vraiment une belle erreur, parce que apparemment, ça augmenterait même notre probabilité de tomber dedans lorsque l'on pense être rodé face à eux. Les diaboliser, ces biais cognitifs, n'est selon moi pas non plus une bonne stratégie parce que s'ils sont là, dans notre cerveau, dans notre fonctionnement, c'est qu'ils ont une utilité. Et questionner ce cheminement de pensée, comme on va faire aujourd'hui, eh bien, ça permet simplement de se familiariser avec. Donc, toutes les informations dont je vais vous parler aujourd'hui proviennent des livres suivants. Donc, le premier, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, qui se lit très vite. C'est « Votre cerveau vous joue des tours » de Albert Mukeber. Et le second, c'est « Système 1, Système 2 » de Daniel Kahneman. Et après, voilà, j'ai complété avec diverses recherches sur Internet. Donc, pour les livres, je vous les recommande vivement, d'ailleurs. Même si j'ai une petite réserve concernant le côté un peu dichotomique, genre soit noir, soit blanc, de système 1, système 2, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé, Votre cerveau vous joue des tours, parce que, comme je vous ai dit, il est facile à lire, il est rapide. Le livre, il est petit, mais efficace. Donc après, voilà, c'est mon avis personnel, mais je vous mettrai aussi les références dans les notes. Comme ça, vous pourrez les lire, vous aussi, et faire votre propre avis, ce que je vous invite vivement à faire. Donc, ces biais cognitifs, d'où viennent-ils et à quoi servent-ils? Comment les identifier? Est-ce possible de les gérer? On va voir tout ça aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Donc c'est parti. Alors, un biais cognitif, c'est quoi? Selon Wikipédia, un biais cognitif est une déviation dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. Fin de la définition. Alors, en gros, il s'agit d'un raccourci, d'une pensée automatique que l'on juge logique, rationnelle, mais qui ne l'est pas en fait. Les biais cognitifs influencent notre réalité de manière illogique, voire même erronée, et peuvent tout à fait influencer nos pensées ou nos actions sans même que nous nous en rendions compte. Et oui, c'est ça l'aspect un petit peu, des biais cognitifs, quoi. C'est que on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là, mais par contre, quand on y est confronté, c'est très, très, très difficile de mettre le doigt dessus, soi-même déjà et de manière objective. Mais bref. Alors, les biais cognitifs, ils sont divisés en 4 catégories et ça explique en fait parfaitement à quoi ils servent et dans quelle mesure ils apparaissent. Donc, ces 4 catégories sont les suivantes. En premier, on va avoir les biais qui découlent d'une surcharge d'informations à traiter par notre cerveau. Ensuite, on a les biais qui aident à trouver du sens à certaines situations. Les biais qui apparaissent lorsque l'on nécessite d'agir rapidement. Et enfin, les biais qui aident à compenser les limites de notre mémoire. Donc notre cerveau consomme énormément d'énergie et traite énormément d'informations au quotidien. Les biais, en fait, ils sont là pour économiser un petit peu tout ça, toute cette énergie. Donc ils permettent d'effectuer automatiquement des raccourcis mentaux et de nous enlever en fait une certaine charge finalement. Donc c'est super pratique dans le contexte évolutif que notre espèce a connu, mais c'est pas forcément hyper adapté à notre société moderne et très complexe où tout va vite. Le problème, c'est que ça peut aussi créer une distorsion cognitive et nous induire à mal interpréter certaines choses ou situations. Le fait que notre cerveau, voilà, il utilise comme ça des raccourcis, bah ça peut entraîner des erreurs de jugement. Alors, les biais cognitifs, ils impactent autant les relations sociales que la logique, que la perception, les interprétations que l'on se fait de certaines choses, etc., etc. Donc en bref, nos biais nous influencent et peuvent nous amener, du coup, comme je vous disais, à des erreurs de jugement et nous rendre très mauvais en statistiques et probabilités, voire même prendre des décisions tout à fait irrationnelles basées sur des perceptions qui sont biaisées. Du coup, ouais, tout ça, c'est un peu dur. Hein. Non, en vrai, ils peuvent aussi être très bons pour nous, ces biais, et ils peuvent tout à fait être utiles suivant le contexte. Donc, par exemple, pour renforcer nos liens interpersonnels avec d'autres humains, en fait. Donc, prenons plusieurs exemples qui sont directement issus du livre d'Albert Mukaber et que je trouvais assez pertinents. Typiquement, on peut prendre, pour exemple, le biais de sélection. Donc, celui-ci, il nous permet de choisir de garder en mémoire plus facilement les bons moments avec nos proches plutôt que les disputes ou les conflits. Après, bien sûr, tout dépend du vécu, de l'intensité des événements vécus aussi. Mais pour prendre un exemple, dans un couple, souvent, on va faire en sorte de garder plus facilement accessible en mémoire les bons moments. Même si parfois on peut passer par des phases compliquées, notre mémoire les oublie en fait, entre guillemets, relativement rapidement. Plus le temps passe et plus les bons souvenirs gardent de la place. Et les mauvais souvenirs, on va peut-être plutôt les retrouver dans des moments un petit peu plus fragiles. Par exemple, des moments où on va être un petit peu, paradoxalement, un peu plus irrationnel, genre la nuit, le soir, quand on va se relaxer un petit peu physiquement, ce genre de choses peuvent revenir plus facilement en mémoire, mais globalement, ce qui va vraiment rester, ça va être plutôt les bons moments, parce que c'est plus sympa aussi pour notre cerveau de les garder. Donc ça fonctionne dans un couple, mais ça peut aussi être par exemple avec sa famille. Et le second exemple me fait bien marrer car ça m'est arrivé très souvent et on le prend pour une synchronicité dans la sphère spirituelle. Mais penser à quelqu'un et recevoir un message de sa part est un biais de confirmation. On occulte complètement toutes les fois où on a pensé à quelqu'un et qui nous a pas envoyé de message à ce moment-là. Mais bon, ça renforce les liens, de se sentir connecté Et typiquement, du coup, ces deux exemples, ces deux biais renforcent nos liens sociaux et ont des côtés positifs. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre ceci. Il est impossible de se débarrasser de nos biais cognitifs. C'est un fonctionnement de notre cerveau, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Toutes les personnes qui vous diront le contraire mentent ou parlent sans savoir. Et en plus de ça, n'ont absolument rien compris à ces biais en fait, finalement. Donc si vous voyez une masterclass ou un programme ou un coach quelconque qui vous promet X méthodes pour vous débarrasser de vos biais cognitifs, simplement fuyez. Maintenant, vous le savez, c'est impossible passer au travers. Vous pouvez simplement vous entraîner à les repérer, sachant que vous allez les repérer plus facilement chez les autres que chez vous-même. Et ouais, c'est un peu relou. Mais du coup, comme je vous expliquais, par contre, on peut apprendre à mieux penser et à prendre du recul par rapport à tout ça. Quand je dis mieux penser, c'est penser par-dessus ses pensées, essayer de comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense. Ça, c'est la base de la métacognition. Et vous savez du coup que j'aimerais vraiment vous amener de plus en plus aussi dans ce truc-là, de manière plus intentionnelle, même si c'est quelque chose que je faisais déjà quand même auparavant. Donc, avoir conscience de ces fonctionnements permet aussi de tomber peut-être un peu moins facilement dans certains pièges de jugement que peut présenter notre raisonnement. Le meilleur moyen d'apprendre à connaître les biais, c'est d'en apprendre plus sur eux. Et en fait, c'est tout à fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans cet épisode. Donc, top si tu l'écoutes, bien joué. Pourquoi je crois ce en quoi je crois, pourquoi je pense ce que je pense, comment j'en suis rendue à avoir cette opinion, quel a été mon cheminement en termes de raisonnement afin d'en arriver à cette décision. Si vous désirez mieux comprendre comment fonctionnent vos propres biais, ces questions sont super intéressantes et permettent de cultiver ce recul nécessaire et ce détachement par rapport à une décision ou un jugement final par exemple. Quel est le cheminement de pensée qui a fait que j'en suis arrivée à cette conclusion est beaucoup plus intéressante que la conclusion en elle-même si on veut en apprendre plus sur ces mécanismes cognitifs. Albert Munkeberg conseille ceci. Est-il nécessaire d'avoir une opinion sur tout ? Cela peut paraître contre-intuitif dans une société où on peut tout noter, de sa chambre d'hôtel à son dentiste, où tout le monde a un avis sur tout. Voilà, il suffit de passer quelques minutes sur TikTok ou pire, Facebook, et voilà que tout le monde expose son opinion, son jugement, ses critiques. Et vous l'aurez compris, de manière absolument pas objective, et là, petite parenthèse, je pense pas d'ailleurs que ce soit possible de critiquer quelque chose objectivement, mais bon, c'est mon avis subjectif, hein. Et qui plus est, on est complètement influencé par nos propres filtres, croyances, cultures et nos propres biais cognitifs, donc. Et du coup, c'est ok de pas savoir quelque chose. J'en parle régulièrement, mais on nous a tellement conditionnés à éviter les mots « je ne sais pas » que si on n'a pas un avis sur la guerre en Ukraine, le vaccin du Covid, ça peut sembler complètement lunaire en fait pour certaines personnes. Mon avis là-dessus, c'est que ça s'est ancré dès notre scolarité. C'est-à-dire que combien de profs nous demandaient d'essayer de tenter une réponse même si on ne savait pas. Je pense pas que ça partait d'un mauvais sentiment, mais ne pas savoir est vu de manière très péjorative, presque moqueuse, et c'est complètement con, moi, je trouve. Parce que qui sur cette planète peut prétendre avoir la science infuse ? Ne pas savoir devrait demander de l'humilité, et ça devrait être normal, mais pourtant. Parce que finalement, il existe du coup presque une injonction à avoir un avis sur tout, et admettre et avoir l'humilité, donc, ou la conscience d'esprit de ne pas avoir assez d'informations à sa disposition afin de juger de quelque chose, permet déjà d'éviter énormément de biais cognitifs. Et oui, je vous donne une petite solution ici aujourd'hui. Suspendre son jugement et se renseigner, poser des questions, permet d'éviter de plonger à pieds joints dans ses biais cognitifs. Donc, suspendre son jugement, attendre d'en avoir plus ou alors se rapprocher de véritables experts sur certaines questions permet, voilà, déjà de limiter, de tomber dans certains biais cognitifs. Donc, explorer ces pistes, on ne peut pas tout savoir sur tout, c'est impossible. Après, certains diront liberté d'expression, blablabla, c'est ok en soi, mais le niveau de connaissance n'est pas tellement quantifiable là non plus. Et malheureusement, certaines personnes qui semblent extrêmement renseignées sur un sujet finalement le sont pas tellement, tandis que les experts ont l'impression de ne pas en savoir assez. Et ça d'ailleurs, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est un biais d'illusion de connaissance, et ça je vous en reparlerai dans un autre podcast. J'ai quand même envie de vous parler rapidement de l'intuition. Alors du coup, je sais pas si je vais être dans le time. Parce que oui, dans une société où l'intuition semble prendre de plus en plus de place et être de plus en plus mis en avant, on peut penser que notre intuition peut être un bon guide dans beaucoup de sujets afin de créer son avis sur une question. Sauf que je dois vous mettre un gros warning là-dessus. En effet, l'intuition, c'est top, mais pas du tout dans des sujets que l'on ne maîtrise pas. L'intuition vient de l'expérience et elle n'est pas forcément fiable en dehors de notre champ de compétences. On peut donc avoir des intuitions sur certains sujets, mais suivant notre niveau d'expertise, celle-ci peut également être influencée par nos biais cognitifs et nos raccourcis de jugement. Prenons un exemple, ne pas sentir quelqu'un, c'est une intuition qui se base sur notre expérience. On peut reconnaître de manière intuitive certains signes qui nous alertent, mais il y a aussi un risque énorme d'être influencé par ces biais cognitifs. On a tous une première impression lorsque l'on rencontre une nouvelle personne. Et nous nous basons sur son visage, mais aussi sa tenue, sa posture, etc. On n'a pas besoin de faire forcément de gros efforts cognitifs parce que notre cerveau effectue une heuristique de jugement. Pareil, je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'en parlerai dans un autre podcast, mais je vous mettrai des liens si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin. Et pourtant, on connaît tous les adages genre « la vie ne fait pas le moine » ou « faut pas juger un livre à sa couverture », mais c'est plus fort que nous, c'est automatique. Et du coup, lorsqu'on a un jugement sur quelqu'un et que celui-ci se confirme, c'est, bah, je vous le donne dans le mille, un biais de confirmation. On peut ensuite se dire qu'on arrive à sentir facilement les gens car on peut avoir tendance à complètement oublier toutes les fois où on s'est planté dans notre jugement et faire une surgénéralisation. Donc pour conclure, je pense que le principal c'est d'avoir conscience que notre cerveau nous joue des tours et qu'il est franchement difficile d'être rationnel, mais c'est ok. Cela peut être une perspective angoissante pour certains d'entre vous, peut-être, mais ne pas en avoir conscience est pire encore, je trouve. À force d'expérience, de connaissances, c'est absolument comme tout, on devient plus sensible à ses tours. Le doute nuancé est un outil que je vous recommande à l'heure où les biais sont surexploités sur les réseaux sociaux. Typiquement, les stories Instagram se basent complètement sur un biais de sélection. Les médias, les politiques et la pub aussi utilisent les biais cognitifs depuis que ça existe. Je parle des pubs, des médias et de la politique, pas les biais cognitifs, vous l'avez compris. Donc avant de croire à quelque chose, demandez-vous pourquoi vous voulez y croire. La vision manichéenne du monde et des autres en général induit une intolérance qui malheureusement nous sépare les uns des autres en tant qu'êtres humains. Alors réfléchissez à vos mécanismes lorsque vous jugez, croyez et doutez avec nuance. Je terminerai avec cette citation de Henri Poincaré qui dit « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. » Alors malheureusement, j'ai dépassé un petit peu mon timing, du coup je changerai le titre du podcast, mais j'espère que ces moins de 20 minutes auront été exploitées à bon escient, que vous avez appris des choses, que ça vous a éclairci un petit peu aussi les idées. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao !